21h à Bamako et à Mopti, 22h à N'Djamena. Bienvenue dans Sahel Plus, présenté par Claire Morin-Gibourg. Bonsoir à tous. Aujourd'hui au sommaire de Sahel Plus. Le Haut Commissariat pour les réfugiés s'alarme du nombre grandissant de migrants qui tentent de traverser la Méditerranée. Nous sommes au Mali pour notre dossier sur l'état de la justice dans le nord du pays.
Je dis que la justice va mal, pour ne pas dire qu'elle est inexistante, mais à cause de l'insécurité résiduelle, la plupart des magistrats du nord n'ont pas pu encore regagner leur poste.
Reportage de Mamoudou Bokoum à suivre. Enfin, le comédien tchadien Adr Dounia sera l'invité de la page culture. Mais auparavant, voici le bulletin d'information.
Bonsoir à tous, Jean-Roger Bion à ce micro. À 2 mois de l'élection présidentielle au Nigeria, la violence des insurgés de Boko Haram s'accentue. Une attaque du groupe islamiste dans le nord du pays a fait au moins 32 morts, tandis que 185 personnes ont été prises en otage. Lionel Gaïma nous en dit davantage.
Cela s'est passé dans l'état de Borno, fief historique de Boko Haram. Deux sources locales décrivent ainsi l'assaut survenu en début de semaine, mais dont on n'avait aucune information due à l'absence quasi totale, comme le dit l'AFP, de réseaux de téléphonie mobile et des routes en mauvais état. Les islamistes ont attaqué le village de Gomsuri, à 70 km au sud de Maïdougouri, tuant 32 personnes et enlevant 185 femmes et enfants. Une milice privée chargée de la protection du village n'a pas pu résister aux insurgés, mieux armés, indiquent les responsables locaux cités par l'AFP. Boko Haram s'en est pris par ailleurs à une unité de l'armée camerounaise dans la région d'Amchidé, près de la frontière nigériane. Selon le ministère camerounais de la Défense, 116 islamistes et un soldat camerounais ont trouvé la mort dans cet affrontement. De même source, on apprend que des tirs d'artillerie de l'armée camerounaise ont atteint des cibles en territoire nigérian, mais aucun bilan n'a été communiqué. Ce n'est pas la première attaque de Boko Haram contre les militaires à Amchidé, où 8 soldats et plusieurs dizaines de civils ont été tués le 15 octobre dernier par la secte radicale.
Nouvelle journée de violence à l'université Omar Bongo de Libreville, au Gabon. Des bâtiments ont été incendiés et les forces de l'ordre ont bouclé le secteur. Les manifestants protestent contre l'arrestation de plusieurs leaders du mouvement. Les étudiants sont actuellement réunis en l'Assemblée générale. Dieudonné Mimlama Mitogo est président de l'Observatoire national de la démocratie au Gabon.
En fait, ce qui se passe à l'université, c'est la suite de ce qui a commencé hier. En fait, des événements ont débuté lors du procès d'un leader d'étudiants, M. Olof Irmin. Et pendant que les étudiants attendaient son procès, des manifestations des étudiants qui clamaient sa libération et 2 autres leaders étudiants ont été arrêtés. Donc, ça a déclenché des émeutes hier. Et aujourd'hui, les émeutes ont continué à l'intérieur de l'université et aux alentours. Les bâtiments ont été brûlés au sein de l'université et il est actuellement difficile de pénétrer tant qu'il y a des échauffourées entre les policiers et les étudiants à l'intérieur de l'université.
À Addis Abeba, nouvelle tentative pour résoudre pacifiquement le conflit qui déchire le Soudan du Sud depuis un an. Ces négociations sous l'égide de l'IGAD visent à trouver une trêve durable entre les forces du président Salva Kiir et celles de son ex numéro 2, Riek Machar. Les 4 précédentes sont restées lettres mortes.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Israël affirme que la décision des Palestiniens de présenter un projet de résolution au Conseil de sécurité des Nations Unies pour arrêter l'occupation israélienne ne fera que retarder la résolution de leur conflit. Pour l'État hébreu, les 2 parties doivent plutôt se concentrer sur les négociations. Les Nations Unies ont demandé plus de 8 milliards de dollars pour aider les quelques 18 millions de personnes affectées par près de 4 ans de conflits armés en Syrie. Ces fonds vont permettre de venir en aide aux Syriens déplacés dans leur propre pays et ceux qui ont dû fuir vers les pays voisins. Alors que l'économie russe est en chute libre, le président Vladimir Poutine s'est dit confiant ce jeudi que la relance se fera d'ici 2 ans et que la monnaie nationale, le rouble, va se stabiliser. Il n'a toutefois pas offert de nouveaux remèdes à la crise causée en partie par des sanctions occidentales et la baisse du prix du pétrole. Et puis, l'auteur présumé des attentats de Boston, Jocar Tsarnaev, est apparu aujourd'hui en public pour la première fois depuis 17 mois à l'occasion d'une brève audience. Tsarnaev, qui est âgé de 21 ans, a répondu aux questions du juge lors de cette audience technique qui s'est déroulée en présence des familles des victimes. Son procès doit s'ouvrir le 5 janvier.
Retour à la partie magazine de Sahel Plus sur VOA Afrique. Nous ouvrons l'émission avec l'appel du Haut Commissariat pour les réfugiés à la communauté internationale pour secourir et protéger les milliers de personnes désespérées qui entreprennent de périlleux voyages maritimes en quête d'une terre d'accueil. Une réunion a été organisée la semaine dernière sur cette problématique chez Rubin Dorcil.
Le HCR estime à près de 350 000 le nombre de migrants ayant bravé les dangers de la mer et près de 4 300 ont trouvé la mort durant la traversée. Il s'agit pour la plupart d'Africains et de personnes originaires du Moyen-Orient qui franchissent la Méditerranée. Toutefois, selon le porte-parole du HCR, Adrian Edwards, la famine pousse de nombreux habitants de la Corne de l'Afrique à tenter de traverser le golfe d'Aden. Situation similaire pour les habitants de l'ouest de la Birmanie qui, désespérés, emprunte des voies maritimes dangereuses en Asie du Sud-Est. L'objectif de la réunion organisée par le HCR à Genève est de sauver des vies, a expliqué le porte-parole de l'agence. De l'avis d'Adrian Edwards, il est impossible de le faire si l'on n'examine pas les causes profondes de ces périlleux voyages. Partout, nous voyons des gens fuir des difficultés réelles, puis survient le problème. Si des gens fuient une guerre, un conflit et tentent de demander asile ou une terre d'accueil, et si vous les repoussez, alors cela accroît les risques pour eux, dit-il. En définitive, la dissuasion ne résout pas le problème, la lutte contre les réseaux criminels à elle seule non plus. Il faut voir le problème dans sa globalité, a souligné Adrian Edwards, ajoutant « C'est un problème transnational qui a besoin de réflexion et de solutions transnationales ». Il est plus facile de voir les problèmes que les solutions, fait remarquer le porte-parole du HCR. Selon lui, les gens doivent envisager les solutions le long des routes empruntées, des zones d'accueil et des moyens légaux de demander asile ou des visas. Malheureusement, certains pays accordent une plus haute priorité aux efforts visant à maintenir les étrangers hors de leurs frontières qu'à accorder asile à ceux qui sont réellement dans le besoin, déplore Adrian Edwards. Politiquement, dans beaucoup de pays, nous voyons un mouvement vers la protection des frontières plutôt que la protection des vies de ceux qui arrivent. Nous comprenons l'humeur dans de nombreux pays en ces temps difficiles, avec des niveaux records de déplacements, a déclaré le porte-parole du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, qui estime qu'il faut malgré tout défendre les droits humains et le droit d'asile. Les participants à la réunion du HCR ont noté que l'attention internationale se concentre sur la dimension illégale et criminelle des migrations, alors que les gens entreprenant ces voyages sont victimes des gangs qui prennent avantage de leur désespoir. Il revient aux nations de prévenir cette exploitation et de fournir la protection et l'espoir aux demandeurs d'asile et aux migrants en quête d'un avenir meilleur, ont-ils conclu.
Vous êtes bien à l'écoute de Sahel Plus sur VOA Afrique, 93.1 FM, notre fréquence à N'Djamena. Nous sommes au Mali pour notre dossier. En 2012, le pays a connu une crise sécuritaire entraînant l'occupation des trois quarts du pays par les djihadistes. Toute l'administration avait fui à cette époque et malgré les efforts du gouvernement comme des partenaires, les autorités administratives peinent à se réinstaller. Gros plan aujourd'hui sur l'administration judiciaire qui se réimplante petit à petit dans le nord. Reportage de notre correspondant Mamoudou Bokou.
Les régions de Kidal, Gao et Tombouctou se sont vues vider de l'ensemble de son administration judiciaire lors de la crise sécuritaire de l'année 2012. Avec la reprise de ces régions par l'État et les forces étrangères amies, la situation a évolué dans certaines zones, notamment à Tombouctou, comme nous le précise Kassoum Kone. Il est le président du tribunal de première instance de la cité des 333 saints.
Au niveau de Tombouctou, on peut dire que les choses commencent. Depuis février, le tribunal est de retour. Février 2014, je veux bien dire. On est de retour. Et dans, le tribunal est de retour dans tous ses compartiments. Nous avons un procureur qui est sur place, un président du tribunal qui est sur place, un juge d'instruction, un greffier en chef, un greffier et du personnel d'appui. Donc le tribunal fonctionne correctement. Et les dossiers, quand ils arrivent, ils sont traités. Correctement. Alors, on avait peut-être quelques difficultés parce que c'était en location. Le locaux a été saccagé. Mais depuis le mois de juillet, on a été, grâce aux partenaires, le tribunal a été rénové. Et actuellement, nous évoluons dans le palais même. Et tout se passe correctement. Selon l'organisation judiciaire, chaque cercle a un magistrat. c'est la justice de paix, donc eux, ils sont compétents pour ces cercles. Donc moi, je ne peux que parler par rapport au cercle de Tombouctou, où je suis le chef de la juridiction.
Si les choses commencent à bouger à Tombouctou, dans le cercle de Gourmararousse, la situation est tout autre, Dixit Koke Koulibaly, juge de paix à compétence étendue du cercle.
Dans mon ressort judiciaire, c'est-à-dire Gourmararousse, je dis que la justice va mal, parce que pour ne pas dire qu'elle est inexistante, du fait qu'après l'occupation, donc le retour de l'administration, effectivement, est timide, mais vu les conditions sécuritaires, donc nous avons bénéficié, nous avons été l'objet, du moins on a été invité à cet endroit, mais à cause de l'insécurité résiduelle, donc la plupart des magistrats du Nord n'ont pas pu encore regagner leur poste. Donc en résumé, c'est pour vous dire que la justice aux normes du Mali, pour ne pas dire qu'elle est inexistante, en tout cas dans la quasi-totalité, les juges ne sont pas sur place.
Cette absence des juges dans la quasi-totalité des cercles des régions nord du Mali est liée à un certain nombre de contraintes. Koke Koulibaly, juge de Gourmararousse.
La principale difficulté en réalité, c'est l'insécurité. Parce que pour pouvoir juger, il faut être en sécurité. L'État, aujourd'hui, ne prend pas de mesures vraiment pour assurer notre sécurité. Pour vous en convaincre, j'ai été muté là-bas courant juillet. Je me suis débrouillé à partir là-bas pour faire la preuve de service courant fin septembre. Quand j'ai été, le palais de justice même d'abord est saccagé. Le domicile du juge également est saccagé. Donc le juge n'a même pas de bureau et également il n'a pas de logement. J'ai été obligé de loger avec des administrateurs. Donc dans ces conditions, vous voyez, c'est très difficile, extrêmement difficile de rendre la justice dans ces conditions.
À Tombouctou, les difficultés sont similaires à celles de Rarousse, comme un peu partout dans les cercles des régions nord, assure Kassoum Kone, le président du tribunal de première instance du cercle de Tombouctou.
Il y a des difficultés. Il y a des difficultés, certes, parce que certes, le siège de la juridiction, c'est Tombouctouville, mais le tribunal a compétence sur les localités voisines, les autres communes. À Tombouctou, il n'est pas facile, à une certaine distance de la ville, il n'est pas facile pour les forces de sécurité, PJ, l'huissier, de sortir pour aller faire des actes nécessaires à certains dossiers. Et j'avais moi-même, j'ai été confronté à ce problème en tant que président du tribunal. J'ai un dossier de terre où il est utile pour rendre une bonne justice de faire un transfert sur le lieu, alors que le champ en question se trouve dans une zone où les questions de sécurité font qu'on ne peut pas se transporter. Donc ça veut dire que, bon, peut-être que ça marche, mais il y a des difficultés de ce genre que nous avons aujourd'hui.
Quel doit être le sort de ces différentes affaires qui se trouvent dans les zones un peu reculées vis-à-vis de Tombouctou?
Bon, le sort, moi, aux personnes intéressées par ces dossiers, je leur dis, moi je n'ai pas la solution, eux ils n'ont pas la solution, c'est une question de sécurité générale. Hein, donc on ne peut pas envoyer des agents à des endroits où leur sécurité ne sont pas assurées. Donc ça veut dire qu'encore, on a besoin de la sécurité pour que les populations puissent bénéficier pleinement et jurent pleinement de leurs droits. Et donc ça veut dire que l'insécurité entrave en partie l'exercice des droits des citoyens. Bon, maintenant, le sort, si je n'arrive pas à poser les actes nécessaires, je ne peux pas juger. Donc ces dossiers seront obligés d'attendre au moment propice quand on aura pu établir ces actes. Et on procédera au jugement comme ça se doit.
Mamoudou Bokoum Amopti pour La Voix de l'Amérique.
Rendez-vous demain pour la suite du reportage de Mamoudou Bokoum consacré aux difficultés de l'administration judiciaire dans le nord du Mali. Vous êtes bien à l'écoute de Sahel Plus sur VOA Afrique et sur le 91.2 FM à Mopti au Mali sur la radio Sagan.
SOS les femmes, comment ça? Quand vous ne voulez pas responsabiliser les femmes, si aujourd'hui les femmes, si on a une femme premier ministre, je pense que tous les problèmes qu'on rencontre dans ce pays doivent être résolus. Si on a nomme les femmes directrices, aujourd'hui que tous ces petits problèmes, mais ici dans le pays, on ne veut pas du tout responsabiliser les femmes. Quand c'est la cuisine, on veut que ça soit la femme. Quand c'est la maison, on veut que ça soit la femme. Mais on ne veut pas responsabiliser les femmes. Donc c'est pas sérieux.
Vous venez d'entendre un extrait d'un sketch de l'humoriste tchadien Adre Dounia. Depuis son enfance, Adre Dounia a toujours voulu être humoriste. Ses modèles étaient Louis de Funès ou Jean-Michel Kangkang. Néanmoins, son parcours a été plus sinueux car il est difficile de vivre en tant qu'artiste au Tchad. Adre Dounia.
Ma particularité, c'est que pour moi, c'est d'abord le travail paye tout. Et je suis éthique dans le travail. Et je veux que les gens prennent, parce qu'ici, l'art n'est pas considéré comme un métier. métier. Et j'aimerais que nos parents comprennent également que l'art, c'est un métier. Et que nous, les artistes, même, comprenons l'art comme un métier et qu'on ne prend pas juste pour une distraction. Parce que quand tu dis que tu es artiste au théâtre, ben, les gens pensent que tu es quelqu'un de raté de l'école ou bien quelqu'un qui n'a pas une vision, qui n'a pas un rêve. Et c'est comme ça qu'il devient artiste. Donc voilà, moi, j'ai voulu bien que c'est un métier. Et quand je veux, je manage des artistes ou bien je produis un artiste, je l'amène d'abord à comprendre que c'est un métier et c'est de ça qu'il doit vivre demain. Voilà, donc on ne peut pas demander à un maçon de devenir forgeron. On reste dans son métier et c'est ça où je mets beaucoup l'accent dessus par rapport aux arts.
Diplômé en communication des entreprises, il a aussi fondé sa propre maison de production pour, dit-il, enregistrer les jeunes talents et leur donner une chance. Il regrette que lui n'ait jamais bénéficié d'aucune aide. Adre Dounia revient sur les multiples difficultés qu'il a rencontrées.
D'abord, c'est le financement. C'est difficile dans ce pays, ici au théâtre, d'être financé, surtout quand tu es engagé ou quand tu te mets sur la voie de l'engagement. Mais il n'y a pas de censure quand même comme il se doit. Il y avait des censures sur certains morceaux ou certaines comédies. Mais moi, particulièrement, je n'ai pas eu encore de censure. Et une autre difficulté, c'est qu'on n'a pas beaucoup de salles de spectacle. On n'a pas beaucoup. Donc, si tu fais une création, c'est difficile de faire tourner la création vers le sud, vers le nord. Donc, c'est aussi une difficulté que les artistes rencontrent. Ouais. En ce moment, je suis en train de travailler avec les griots. Je suis en train de faire une compilation des griots de différentes régions et qu'on arrive à respecter le métier d'art comme un métier, comme tout autre métier.
L'humoriste et comédien tchadien Adre Dounia.
Oh yeah! Oh yeah! I'm looking for some people who's looking for peace. Maybe together we could make the war cease. Now we can send mankind to the moon. And we can reach to the bottom of the sea. That's why it's really kind of baffles me that we cannot end wars and bring peace. And we cannot change the way people act. And we cannot change the way people think. So if we sit back, chill out and relax, civilization will soon be extinct. That's why I am.
Sahel Plus, c'est fini pour aujourd'hui. Au montage, Lionel Gaïma. À la technique, Joe Gill. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Nous nous quittons avec le sud-soudanais Emmanuel Jal et son titre « We Want Peace ». Emmanuel Jal est un ancien enfant soldat devenu musicien et militant pour la paix. Rendez-vous demain, 21h, temps universel sur VOA Afrique ou d'ici là, sur nos pages Facebook ou Twitter, VOA Sahel Plus. Bonne soirée et bonne nuit à tous. Shout for the poor people living and die for the world gone deaf, the world gone blind, the world busy sitting down on the behind. Nobody cared about the poor and needy, too busy sucking up to the rich and the greedy. For every hero there's a villain, I am kidding. We gotta shout, sending out our sin. One more time, we got no more time. We gotta figure out the way that we could all combine. Like Jericho, the world comes stumbling down, the sound of